France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Après le coup d'État du 2 décembre 1851, qui faisait de lui, comme d'une soixantaine d'autres députés, un proscrit, ce fut dès le 12 décembre, au premier jour de son exil bruxellois, que Victor Hugo commença la rédaction de « Histoire d'un crime ». Dans ce livre, dont il acheva l'écriture en mai 1952, il relatait, à la première personne et heure par heure, en témoin et en acteur, les jours du coup de force de Napoléon le Petit, auquel il s'opposa alors, mais en vain, de toute la puissance de sa voix, pourtant si respectée. Le livre ne parut que bien plus tard, en 1877, dans un moment politique troublé, où Victor Hugo, revenu d'un exil de 19 ans, jugea opportun de rappeler à chacun le 2 décembre 1951. En 2009, sur France Culture, l'atelier littéraire recevait Éric Hazan, fondateur et directeur de La Fabrique, qui proposait une nouvelle édition de Histoire d'un crime. Avec lui, autour de la table de Pascal Casanova, Pierre-Marc de Biasi et le critique Alain Nicolas commentaient cette nouvelle édition, rappelaient le parcours politique de Victor Hugo en éclairant les circonstances historiques d'un coup d'État qui fit basculer l'existence tout entière d'un écrivain célèbre, couvert d'honneur, académicien, pair de France sous Louis-Philippe, et alors député aux positions que l'on peut qualifier jusque-là de conservatrice. L'atelier littéraire de Pascal Casanova, Victor Hugo, Histoire d'un crime, une émission diffusée la première fois le 13 décembre 2009 sur France Culture.
L'atelier littéraire. Aujourd'hui, Victor Hugo, Histoire d'un crime. L'atelier littéraire aujourd'hui autour de la table, Éric Hazan qui dirige les éditions La Fabrique, maison qui propose une nouvelle édition très documentée de l'histoire d'un crime, déposition d'un témoin signé Victor Hugo, préface de Jean-Marc Ovas, notes et notices de Guy Rosa. Pierre-Marc de Biasi qui est chercheur au CNRS, spécialiste notamment de Flaubert. On a parlé ici récemment de son dernier livre, Gustave Flaubert, une manière spéciale de vivre, qui est sorti chez Grasset. Alain Nicolas qui dirige les pages littéraires de l'Humanité, qui est aussi critique à l'atelier. Et Pierre Val qui est comédien et qui va lire quelques extraits de l'histoire d'un crime pendant l'émission.
Le fait du 4 décembre est le plus colossal coup de poignard qu'un brigand lâché dans la civilisation ait jamais donné. Nous ne disons pas à un peuple, mais au genre humain tout entier. Le coup fut monstrueux et terrassa Paris. Paris terrassé, c'est la conscience, c'est la raison, c'est toute la liberté humaine terrassée. C'est le progrès des siècles gisant sur le pavé. C'est le flambeau de justice, de vérité et de vie retourné et éteint. Voilà ce que fit Louis Bonaparte le jour où il fit cela. Le succès du misérable fut complet. Le 2 décembre était perdu. Le 4 décembre sauva le 2 décembre. Ce fut quelque chose comme Hérostrate sauvant Judas. Paris comprit que tout n'avait pas été dit en fait d'horreur. et qu'au-delà de l'oppresseur, il y a le chourineur. Voilà ce que c'est qu'un escarpe volant le manteau de César. Cet homme était petit, soit, mais effroyable. Paris consentit à cet effroi, renonça à avoir le dernier mot, se coucha et fit le mort. Il y eut de l'asphyxie dans l'événement. Ce crime ne ressemblait à rien. Quiconque, même après des siècles, fût-il Eschyle ou Tacite, en soulèvera le couvercle, en sentira la fétidité. Paris se résigna, Paris abdiqua, Paris se rendit. La nouveauté du forfait en fit l'efficacité. Paris cessa presque d'être Paris. Le lendemain, on put entendre dans l'ombre le claquement de dents de ce titan terrifié.
L'histoire d'un crime est un livre, disons-le tout de suite, magnifique, parce que, me semble-t-il, rond d'emblée avec la posture qui est sans cesse discutée, rabâchée par les littéraires, de la fusion qui serait inévitable entre la réalité et la fiction, de leur dosage. Il rompt avec les coquetteries qui ont trait à ce mélange, avec les mystères entretenus autour de la vérité de ce qui est raconté et qui serait consubstantiel à la littérature. Et dans ce livre, au contraire, Hugo ne fait pas l'écrivain ou ne pose pas au grand écrivain, quoi que ce soit aussi un très grand livre au sens littéraire. Il prend le rôle du témoin et il décide de raconter tout ce qui s'est passé heure par heure pendant les quelques jours qui ont suivi le coup d'État organisé par Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Et en fait, le livre raconte de façon très très précise ce qui s'est passé principalement pendant 3 jours, donc entre le 2 et le 4 décembre 1851. Il faut peut-être quelques préalables pour bien comprendre ce qui se passe avant d'entrer dans le livre. Rappeler par exemple que la prise de parti de Hugo contre Napoléon le Petit, comme il l'appellera plus tard, était d'autant plus courageuse que il était à l'époque un écrivain très très célèbre, très consacré, académicien, pair de France, député. Il a déjà publié 22 livres, donc un personnage, disons, très 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 officiel et très reconnu.
Oui, c'est ça. C'est ça que je trouve prodigieux dans ce bouquin, c'est que ça décrit comment un destin peut basculer d'un jour à l'autre. C'est-à-dire, comment on peut passer, en effet, du stade de homme absolument glorieux, connu dans l'Europe entière, dont les œuvres se vendent, se traduisent par milliers d'exemplaires, qui est en effet un ancien pair de France, un académicien, député à l'Assemblée, et du jour au lendemain, il devient un proscrit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rentrer chez lui parce que la police l'attend. Il est obligé de se cacher. Il dort chez des amis, dans des arrières-salles de marchands de vin. Et soudain, il se rend compte de ce que c'est que cette vie de proscrit, de cette vie qu'il a finalement contribuer à imposer à beaucoup de gens peu d'années auparavant.
Alors c'est ça, vous dire, vous faites un double virage, c'est un virage comme écrivain consacré et comme député, puisqu'il a été élu député conservateur en 1848 et jusqu'en, je sais pas, à mi-49, il vote à droite.
Oui, enfin, il vote à droite, sauf que il fait partie quand même des gens qui s'opposent, qui parlent contre les mesures répressives qui suivent les journées de juin 48, où le prolétariat parisien a été écrasé. Et ces journées de juin ont été suivies par une répression épouvantable. Non, bon, les gens fusillés, on ne pouvait pas les ressusciter, mais on pouvait aussi parler en faveur des gens qu'on emprisonnait, bannissait, mettait au bagne. Et là-dessus, Hugo prend la parole avec d'autres grands hommes de l'époque, avec Lamennais par exemple. Donc il cesse à ce moment-là d'être un député conservateur.
Disons qu'il avait quand même soutenu la candidature de Louis Bonaparte.
Oui.
Il avait été un homme de
droite.
Ah
oui, complètement.
C'est ça que je voulais dire.
Ouais. Oui. C'est pas pour rien qu'il était pair de France sous la monarchie de Juillet. C'était un conservateur Mais ces années-là, 48-51, et surtout 51, marquent chez lui un virage, et il va faire quand même cet itinéraire extraordinaire de la droite vers la gauche, avec en vieillissant, en prenant de l'âge, qui n'est pas, disons, le plus courant.
Alors, si on suit un peu ces journées, si on commence, ce qu'il découvre, ce qu'on lui apprend le matin du 2 décembre, c'est que quoi, les journaux sont supprimés, l'imprimerie nationale est occupée militairement, les députés sont arrêtés.
C'est ça. C'est-à-dire, en fait, on parlait de ce coup d'État depuis longtemps, depuis des semaines. Mais on n'y croyait plus. D'ailleurs, l'incipit ou l'incipit, je ne sais jamais comment on dit, du livre.
Les deux.
Ça démarre comme ça. Le 1er décembre 1851, Charras haussa les épaules et déchargea ses pistolets. Donc on n'y croyait plus. Et pourtant, en effet, les députés oppositionnels sont arrêtés chez eux, les bâtiments publics sont occupés, bientôt l'Assemblée nationale le sera également.
L'armée est dans Paris.
L'armée est dans Paris, donc c'est le coup d'État classique en France depuis l'étude primaire et jusque...
Et immédiatement, Hugo, justement, on pourra évoquer cette question. Il me semble, Hugo entre dans l'action.
Immédiatement. Ah, ouais. Sans hésiter, immédiatement. Bien qu'en effet, comme vous le dites, il avait été favorable à la candidature de Louis-Napoléon. Mais là, c'est en effet quelque chose de plutôt éthique qu'une analyse politique fine de ce qui se passe, mais pour lui, c'est quelque chose d'intolérable.
Ça faisait quelques mois qu'il sentait, comme les autres, venir. Et comme vous l'avez dit, ça n'a marché que parce qu'on a cru que finalement...
Ça ne se passerait pas.
Parce qu'en juillet, quand Louis-Napoléon cherche à obtenir une modification de la Constitution pour pouvoir se faire réélire à nouveau 4 ans, c'est très actuel, hein, tout ça. C'est là qu'il prévient la Chambre, en disant, là, attendez, on est vraiment en face de quelque chose de très grave, ça sent le coup d'État rampant, et c'est ce qui a lieu assez habilement, effectivement.
Parce qu'il faut peut-être rappeler aux auditeurs que pour que la Constitution fût modifiée, il fallait 3/5 des voix de l'Assemblée, et il ne les avait pas obtenues. Donc c'est ça qu'il n'avait plus de solution que le coup d'État. Il n'y avait plus de solution légale à son maintien au pouvoir.
Je me disais, avant de poursuivre là-dessus, peut-être qu'on comprenne le propos du livre. Au fond, il y a sa décision de prendre le parti, alors on ne peut pas dire le parti de l'insurrection, mais disons le parti de la résistance à ce coup d'État. Mais aussi ensuite d'expliquer le projet de son livre. C'est ça, témoin. Déposition d'un témoin. Peut-être que témoin a plusieurs sens, au fond. C'est comme s'il faisait un procès, mais aussi comme s'il voulait déposer devant l'histoire.
C'est probablement plus la deuxième partie, plutôt comme témoin déposant devant l'histoire. Mais en fait, c'est aussi un témoin qui est aussi un acteur. Parce qu'il joue dans ses journées de résistance au coup d'État un rôle de premier plan. Et c'est pas de la blague. Parce qu'avec Hugo, on ne sait jamais trop. Mais là, non. Son rôle de premier plan comme organisateur de la résistance est attesté. Il y a d'autres documents. Oui, il y a d'autres documents qui croisent bien avec ce qu'il raconte. Peut-être pas tout, mais la plus grande part.
Alain Nicolas.
C'est-à-dire que c'est un témoignage, il y a un feuilletage dans ce livre. C'est-à-dire que, bon, il a été... commencé à chaud, c'est-à-dire à Bruxelles, dès les premiers jours de l'exil, où Victor Hugo met couche sur le papier ses propres faits et gestes, interview les acteurs qui arrivent peu à peu dans cette capitale de l'exil qu'est Bruxelles. Et puis comme il veut finalement publier quelque chose d'assez vite, assez tôt, il met de côté écouter cette espèce de compilation énorme qu'il est sans cesse obligé de reprendre au fur et à mesure qu'arrivent de nouveaux éléments. Il publie Napoléon le Petit et il garde ça pour plus tard. Et il publie ça 25 ans après. Et 25 ans après, il y a évidemment un recul qui l'amène d'ailleurs à enrichir un certain nombre de réflexions. Bon, il y a toute une partie. Bon, il y a évidemment la conclusion, qui est une conclusion très très générale. Mais même à la fin, il y a de la troisième journée, il y a la constatation des lois morales, où il y a une série de réflexions sur le peuple recule le 5, il se couche le 6, etc. Donc il y a une série de sens et il y a plusieurs couches dans ce texte dont on ne connaît peut-être pas très très bien la il y a pas de critique.
Non, mais je me disais, témoin peut vouloir dire qu'il intente un procès.
Et oui, oui, oui.
Dépose à ce procès imaginaire.
Voilà, mais en 1877,
ça peut vouloir dire aussi témoin pour que l'histoire ne s'oublie pas.
Voilà,
et
bien
aussi,
sûr.
Et aussi une sorte de garantie de la vérité de ce qu'il raconte.
Voilà, lui, il est témoin effectivement devant le tribunal de l'histoire pour au nom de la vérité, mais aussi au nom des enjeux de l'époque, hein, puisque bon, ça paraît en 1877, la République a été votée, je dirais presque par surprise en 1877. À l'occasion d'un amendement elle n'est pas encore tout à fait assise sur ses bases et il est clair que Victor Hugo, qui à l'époque la grande figure morale tutélaire de la République, veut absolument prendre date et servir un peu non seulement à l'histoire mais à la vie politique de son temps.
Pierre-Marc de Bézi.
Oui, 77, l'année de sortie de ce texte, c'est une année où Paris vit avec l'impression que le putsch militaire est tout près. Hein, on a un gouvernement d'ordre moral, MacMahon, c'est le sabre et le goupillon. Hein, faut imaginer quelque chose d'assez proche, toute proportion gardée, d'un gouvernement Le Pen, xénophobe, antisémite. Et c'est dans ce climat-là que quelque chose comme un risque sérieux de prise de pouvoir par un gouvernement militaire se présente. Ça n'aura pas lieu, mais personne ne le sait. Et Hugo, tout vieux qu'il est, dit « Moi, dans des circonstances comme ça, je vais au combat. » Donc, c'est un texte de combat qui ressort l'histoire de 51 pour parer à la situation à Paris en 77.
D'ailleurs, en tête de l'édition, il écrit, ou il fait écrire, ce livre est plus qu'actuel, il est urgent, je le publie. Voilà. C'est-à-dire qu'il le gardait en fait, il le gardait en réserve, dans un coin. Il n'avait pas trop l'intention de le publier, mais là il dit, ce livre rappelle quelque chose.
C'est urgent.
Qui sonne très urgent. Voilà.
Et puis je pense quand même que c'est aussi, par rapport à ce qui a pu être Napoléon le Petit, qui était un texte instrumentalisé comme outil de combat pamphlétaire, c'est aussi la volonté de déposer des documents pour l'avenir. Dire voilà, je vais vous reprendre tout à zéro, minute par minute. Et la notion de témoin, là, elle ressemble un petit peu à une problématisation moderne de ce que c'est qu'un témoin. Que, justement, fiction ou pas fiction, on est autant que possible dans le vrai, dans le documentaire. Mais Hugo se pose quand même des questions assez sérieuses. On voit bien qu'il y a eu du trajet quand même littéraire entre 51 et 77. Au moment de déposer son texte, il se demande est-ce que je peux dire je ? Est-ce qu'il faut plutôt fictionnaliser un certain nombre de choses ?
Oui, Jean-Marc Ovaz dit qu'il a hésité longtemps d'ailleurs avant d'adopter la première personne.
Et dès le départ, enfin, c'était une question compliquée. Et on voit bien comment l'histoire, la littérature a repris aussi en charge ces événements terribles de 48 et de 51, en donnant au roman, par exemple, un statut critique, nouveau, pour pouvoir assumer ces 6000 morts à Paris, quand même, 48. 6000 morts. Hein, ça a été le trou noir. Quand même. Ça a été le point aveugle par lequel Marx aussi a avancé dans sa théorie. Donc, je crois que c'est tout ça, en 77, qui est déjà là, comme une, pour Hugo, comme l'obligation de témoigner, mais en un sens nouveau, quoi.
Alors, si on revient à 51, ce qu'on le suit, en fait, pendant ces trois jours. Il arpente Paris, il va de lieu de réunion en lieu de réunion, parce que ils ont des réunions, ces députés résistants, mais il faut que la réunion se termine très vite, parce qu'ils sont tous en danger d'être arrêtés ou d'être fusillés, donc ça va très très vite. Ils ont peur de pas se retrouver, ils changent de lieu très vite, on leur propose des appartements, des salles de réunion, voilà, c'est ça, on suit Hugo
pendant ces trois jours. Et c'est pour ça que c'est écrit à la première personne.
Ça ne pouvait pas être autrement, je pense. C'est vraiment, il raconte ce qu'il a vu ou ce qu'on lui a dit. Parce que...
Oui, quelquefois, il n'y est pas.
Parfois, il n'y est pas. Ouais. Parfois, il n'y est pas. Mais enfin, le soir du premier jour, il y a une réunion rue Blanche où il décide de se retrouver le lendemain matin dans la salle Roisin, qui est une salle du Faubourg Saint-Antoine, parce que le Faubourg Saint-Antoine, c'est le traditionnel lieu de la résistance et de l'émeute à Paris depuis la Révolution française, depuis les journées de Pré-Réal. Et là... C'est un des moments les plus extraordinaires. Il est dans un fiacre. Il dit les cochers de fiacre à Paris sont des gens formidables. Il traverse la place de la Bastille, qui est noire de troupes, avec les baïonnettes qui brillent dans la nuit qui commence à peine à se dissiper, parce que c'est tôt le matin, on est en décembre, les journées sont courtes. Et il avance avec son fiacre, on entend de plus en plus de coups de fusil. Le cocher lui dit... vers où on va, il dit ben, là où on tire. Et puis au bout d'un moment, il ne peut plus avancer parce que le Faubourg Saint-Antoine est barré complètement par les troupes. Et une main le saisit à travers la vitre du fiacre, à travers la porte du fiacre. C'est un de ses amis qui s'appelle Ray qui lui dit « Arrêtez, c'est fini, Baudin est mort ». Et Baudin a été tué à la barricade qui est à l'angle de la rue de Côte et du Faubourg. Et pour Hugo, c'est une deuxième façon, une deuxième culpabilité qui pèse sur lui en dehors de son attitude pendant les journées de juin. Il y a cette mort de Baudin parce que pour lui, c'est lui qui devait mourir là. Et pour une question d'heure, il est arrivé trop tard. En fait, c'était pas lui qui était en retard, c'était les autres qui étaient en avance en réalité.
Alors, vous êtes un peu en avance sur moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il prend très vite conscience que voilà, le rapport de force est tellement dissymétrique et les gens se souviennent de 48 et qu'il y a peu de chances, au fond, que ce faubourg se soulève. Et donc, on va écouter un extrait de la première journée qui évoque cette atmosphère dans Paris.
Cependant, l'omnibus s'était mis en marche. Il était plein. J'avais pris place au fond à gauche. Arnaud, de l'Ariège, s'était assis à côté de moi. Carini en face, Montanelli près d'Arnaud. Nous ne nous parlions pas. Arnaud et moi, nous échangeions en silence des serrements de main, ce qui est une manière d'échanger des pensées. À mesure que l'omnibus avançait vers le centre de Paris, la foule était plus pressée sur le boulevard. Quand l'omnibus s'engagea dans le ravin de la porte Saint-Martin, un régiment de grosse cavalerie arrivait en sens inverse. Au bout de quelques secondes, ce régiment passa à côté de nous. C'était des cuirassiers. Ils défilaient au grand trot et le sabre nu. Le peuple, du haut des trottoirs, se penchait pour les voir passer. Pas un cri. Ce peuple morne d'un côté, de l'autre les soldats triomphants, tout cela me remuait. Subitement, le régiment fit halte. Je ne sais quel embarras, dans cet étroit ravin du boulevard où nous étions resserrés, obstruait momentanément sa marche. En s'arrêtant, il arrêta l'omnibus. Les soldats étaient là. Nous avions sous les yeux, devant nous, à deux pas, leurs chevaux, pressant les chevaux de notre voiture. Ces Français, devenus des Mamelouks. Ces citoyens combattants de la Grande République, transformés en souteneurs du Bas-Empire. De la place où j'étais, je les touchais presque. Je n'y pus tenir. Je baissai la vitre de l'omnibus, je passai la tête dehors, et regardant fixement cette ligne épaisse de soldats qui me faisaient front, je criai « À bas Louis Bonaparte, ceux qui servent les traîtres sont des traîtres !» Les plus proches tournèrent la face de mon côté et me regardèrent d'un air ivre. Les autres ne bougèrent pas et restèrent au port d'armes, la visière du casque sur les yeux fixés sur les oreilles de leurs chevaux. Il y a dans les grandes choses l'immobilité des statues et dans les choses basses l'immobilité des mannequins. L'obéissance passive dans le crime fait du soldat un mannequin. Au cri que j'avais poussé, Arnaud s'était retourné brusquement. Il avait lui aussi abaissé sa vitre et il était sorti à mi-corps de l'omnibus, le bras tendu vers les soldats, et il criait « À bas les traîtres !» À le voir ainsi avec son geste intrépide, sa belle tête pâle et calme, son regard ardent, sa barbe et ses longs cheveux châtains, on croyait voir la rayonnante et foudroyante figure d'un Christ irrité. L'exemple fut contagieux et électrique. « À bas les traîtres !» crièrent Carini et Montanelli. « À bas le dictateur ! À bas les traîtres !» répéta un généreux jeune homme que nous ne connaissions pas et qui était assis à côté de Carini. À l'exception de ce jeune homme, l'omnibus tout entier semblait pris de terreur. « Taisez-vous !» criaient ces pauvres gens épouvantés. « Vous allez nous faire tous massacrer !» Un plus effrayé encore baissa la vitre et se mit à vociférer aux soldats. « Vive le prince Napoléon ! Vive l'empereur !» Nous étions cinq, et nous couvrions ce cri de notre protestation obstinée. « Abat Louis Bonaparte ! Abat les traîtres !» Les soldats écoutaient dans un silence sombre. Un brigadier, l'air menaçant, se tourna vers nous et agita son sabre. La foule regarda avec stupeur. Que se passait-il en moi dans ce moment-là? Je ne saurais le dire. J'étais dans un tourbillon. J'avais cédé à la fois à un calcul, trouvant l'occasion bonne, et à une fureur, trouvant la rencontre insolente. Une femme nous criait du trottoir « Vous allez vous faire écharper !» Je me figurais vaguement qu'un choc quelconque allait se faire et que, soit de la foule, soit de l'armée, l'étincelle jaillirait. J'espérais un coup de sabre des soldats ou un cri de colère du peuple. En somme, j'avais plutôt obéi à un instinct qu'à une idée. Mais rien ne vint. Ni le coup de sabre, ni le cri de colère. La troupe ne remua pas et le peuple garda le silence. Était-ce trop tard? Était-ce trop tôt?
C'est un, il me semble, c'est un leitmotiv dans ce texte que la constatation par Hugo que les gens ne sont pas prêts à se soulever contre ce coup d'État.
C'est une chose qui manque dans ce livre, c'est à quel point l'Assemblée législative était impopulaire. Parce que, d'abord, elle venait d'abolir le suffrage universel, que dans ses affiches, le président, l'auteur du coup d'État, rétablissait. Ces députés étaient extrêmement, extrêmement détestés. C'est eux qui avaient fait... Enfin, c'est pas eux, mais c'est leurs prédécesseurs qui avaient fait mitrailler le peuple en juin 48. Et ça, c'était impardonnable. C'était impardonnable. Donc, si les gens n'ont pas bougé, c'est pas tellement qu'ils approuvaient le coup d'État, c'est qu'ils détestaient le régime que ce coup d'État supprimait.
En tout cas, c'est un constat qu'il fait sans cesse, Hugo, cette immobilité, en particulier des gens du Faubourg Saint-Martin.
Et sans doute, il ne le comprend pas complètement.
C'est
parce qu'il n'a pas l'outil intellectuel pour comprendre la division dans le peuple, l'existence de classes qui s'opposent dans le peuple. Ce que Marx va analyser, et ce que Flaubert met en scène, par exemple, dans l'éducation sentimentale, où il fait dire à un prolétarien, là, un prolétaire plutôt, qui passe, et son héros, Frédéric Moreau, demande au gars dans la rue, mais enfin, vous bougez pas, vous êtes du peuple, qu'est-ce que ça veut dire, regardez, il y a un coup d'État. Et l'autre répond, bien malin de bouger pour défendre les bourgeois qui nous ont massacrés en juin 48. Donc, Dans Flaubert, on voit se construire cette espèce d'opposition qui fait qu'au moment du coup d'État, le prolétariat, parce qu'il en restait, hein, parce qu'on en avait quand même tué beaucoup en juin, considère que ça, c'est une histoire entre les bourgeois et le...
Mais la différence, c'est que Flaubert fait une analyse tranquillement dans son bureau, tandis que Hugo, il y est.
Oui, c'est pas vrai. Hein. Flaubert, il était en 48 sur le... dans Paris, en 51, il revient, d'Orient, oui.
En février. En juin, non.
Oui, il est, c'est pas du tout un homme d'action, Flaubert, ça c'est sûr. Mais dans son analyse, je pense que là, il voit juste, véritablement. C'est une impossibilité pour Hugo de le penser, pas seulement parce que il est un petit peu en retrait, dans l'histoire des idées, mais parce que ça correspond à un démenti de ce qu'il a toujours défendu, c'est-à-dire le peuple comme valeur d'unité, de fusionnelle, quoi.
Oui, c'est-à-dire, en plus, Victor Hugo
Alain Nicolas.
Il était déjà engagé, c'est-à-dire qu'il a dû changer d'idée, quoi, enfin changer de valeur. Bon, il s'est engagé pour le retour des Bonaparte d'abord, parce que au nom de la lutte contre l'impiété de l'exil, c'était ses propres termes. Bon, et puis il dit en signant cette pétition pour le rappel de la famille Bonaparte que c'est son père, général d'Empire, qui se lève avec lui. Voilà, donc il y a quand même cette espèce d'héritage qui le conduit à s'accrocher à cette famille Bonaparte, qui d'ailleurs fait profession de sentiments républicains, qui était proscrite par Louis-Philippe, qui était un roi, etc. Et donc il met du temps à comprendre ce qui se passe. Et effectivement, pour lui, le peuple, c'est une sorte de valeur suprême dont il ne, au sein duquel il ne fait aucune différence. Et en juin 48, il est envoyé par l'Assemblée pour admonester les émeutiers, pour leur demander de rentrer gentiment chez eux, en leur disant le suffrage universel le droit au suffrage a aboli le droit à l'insurrection. Bon, ce qui est quand même une très belle phrase, mais qui leur faisait ni chaud ni froid, parce que eux, ce qu'ils demandaient, c'était le rétablissement des ateliers nationaux qui leur permettaient de vivre. Donc, on voit bien que les aspects économiques et sociaux de la question lui échappent totalement. Il ne voit que les aspects politiques et surtout moraux. Donc il peut pas être bien armé pour comprendre ce qui va se passer, même s'il en prend conscience très très vite. Il est quand même très lucide, il comprend, il est très intelligent, il comprend très vite, mais il n'anticipe pas du tout.
Oui, il n'est pas le seul. On ne parle que de lui.
Éric Cazan.
Tous ses camarades dont il fait grand éloge pour leur courage qui a dû être réel et leur vertu républicaine, les Schœlcher, les Michel de Bourges, tous ces gens-là partagent ces opinions. C'est tout un courant républicain traditionnel, conservateur, qui s'exprime dans l'histoire d'un crime et vis-à-vis duquel il prend ses distances à un moment donné. Et il prendra de plus en plus.
Il admire beaucoup Michel de Bourges, par exemple.
Oui, il l'admire beaucoup, ouais. Et Schœlcher aussi, ce sont ses amis de flotte et tous ces gens-là, qui sont des républicains conservateurs, qui d'ailleurs, dont beaucoup se rallieront ensuite à l'Empire, et qui seront, eux ou leurs enfants, ceux qui seront à Versailles au moment de la Commune.
On disait tout à l'heure, il n'est pas toujours là, et il se sert d'autres témoignages, et particulier, il y a un très très beau chapitre sur ce qui se passe pendant ce temps-là à l'Élysée. Comment il reconstitue ce qui se passe à l'Élysée
pour le coup, je pense que
c'est romanesque,
oui. Oui. Là, je pense pas qu'il ait tellement de documents là-dessus.
Non, parce qu'il y a ce côté-là aussi dans l'histoire d'un crime. Il y a des portraits vachards de Dupin, qui est le président de l'Assemblée nationale.
De Mérimée,
voilà. Oui, allez-y.
Oui, il y a une question que pose Hugo, quand même, qui est assez intéressante. Il la pose, il a le courage de la poser. Pourquoi ne faisait-il pas partie des gens qu'on a arrêtés? Puisqu'il avait été... Et là, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Je cite quand même le passage, parce que je trouve fort. Hein. Les fabricateurs du guet-apens avaient soigneusement oublié Jules Fabre, Michel de Bourges et moi, nous jugeant moins hommes d'action que de tribune, voulant laisser à la gauche des hommes capables de résister, mais incapables de vaincre. Quelle analyse politique, hein ? Il n'a pas été arrêté pour pouvoir protester sans vaincre. Il est très conscient de ce qui se passe, là. C'est assez formidable. Mais ça relativise extraordinairement tout ce qui s'écrit, hein. Il écrit tout cela, toute cette déposition de témoins, avec la conscience qu'il a été un peu le jouet des événements.
Je proposais de lire la troisième lecture, puisqu'on parlait de l'Élysée pour évoquer Mérimée, c'est-à-dire page 376.
Monsieur Mérimée était naturellement vil. Il ne faut pas lui en vouloir. Quant à Monsieur de Morny, c'est autre chose. Il valait mieux. Il y avait en lui du brigand. Monsieur de Morny était courageux. Brigandage oblige. Monsieur Mérimée s'est donné à tort pour un des confidents du coup d'État. Il n'y avait pourtant pas de quoi se vanter. Mais la vérité, c'est que Monsieur Mérimée n'était confident de rien. Louis Bonaparte n'avait pas de confiance inutile. Ajoutons qu'il est peu probable, malgré quelques indices contraires, que Monsieur Mérimée fût à l'époque du 2 décembre en relation directe avec Louis Bonaparte. Cela ne vint que plus tard. Mérimée d'abord ne connut que Morny. Morny et Mérimée furent tous deux de l'intimité de l'Élysée, mais différemment. On peut croire Morny et non Mérimée. Morny était dans les grands secrets, Mérimée dans les petits. Les cours d'amour étaient sa vocation. Les familiers de l'Élysée étaient de deux sortes, les affidés et les courtisans. Le premier des affidés, c'était Morny. Le premier ou le dernier des courtisans, c'était Mérimée. Voici ce qui fit la fortune de M. Mérimée. Les crimes ne sont beaux que dans le premier moment. Ils se fanent vite. Ce genre de succès manque de durée. Il importe d'y ajouter promptement quelque chose. Il fallait à l'Élysée un ornement littéraire. Un peu d'académie ne messied pas à une caverne. M. Mérimée était disponible. Il était dans sa destinée de signer « Le fou de l'impératrice ». Madame de Montijo le présenta à Louis Bonaparte, qui l'agréa et qui compléta sa cour par ce plat écrivain de talent. Cette cour était une collection, étagère de bassesse, ménagerie de reptiles, herbier de poison.
Il y a deux occurrences de Mérimée dans ce livre, et la première est celle-ci. « Tiens, dit Monsieur Mérimée, je vous cherchais. Je lui répondis, j'espère que vous ne me trouverez pas. Il me tendit la main, je lui tournai le dos. Je ne l'ai plus revu. Je crois qu'il est mort. Mais il y a aussi un portrait de Monsieur Dupin qui est formidable. Et en deux lignes, Monsieur Dupin rend à Louis Bonaparte le service d'être à sa place, le dernier des hommes. C'est vrai qu'il y a tout un côté comme ça, vengeur.
Oui, oui. Et drôle.
Et très, très drôle.
Oui.
peut-être on peut en arriver au troisième jour. Puisque le troisième jour, c'est le massacre. L'hypothèse de Hugo, c'est que ce massacre a été planifié, a été organisé à l'avance par le pouvoir, alors que d'autres autour de Hugo pensent que c'est une Saint-Barthélemy, comme ils disent, spontanée. Enfin,
c'est peu probable qu'un massacre aussi intense et large dans Paris ait été un effet collatéral de la... Il est probable que ça a été voulu, parce qu'au fond, ça ne tournait pas si bien que ça au soir du deuxième jour. C'est-à-dire que les républicains, ceux qui résistaient au coup d'État, disons, Hugo et ses amis, après avoir échoué à soulever le faubourg Saint-Antoine, ont quand même réussi à soulever les vieux quartiers insurrectionnels traditionnels de Paris.
C'est ça, peu à peu, il y a des barricades pendant le deuxième jour.
Beaucoup de barricades dans le quartier, finalement, qui se situe entre les Halles et les Grands Boulevards, c'est-à-dire le quartier traditionnel de l'émeute, là où ont eu lieu les émeutes de juin 1832, dépeintes dans Les Misérables. Et il dit quelque part, Hugo... Quand le peuple se soulève, c'est à la Bastille. Quand la bourgeoisie se soulève, c'est à la Porte Saint-Martin. C'est pas tout à fait juste, c'est pas tout à fait la bourgeoisie. C'est une autre classe populaire, qui n'est pas faite des ouvriers d'usine, qui n'est pas faite des ouvriers qui ont déjà connu la révolution industrielle. C'est un archaïsme. C'est une classe ouvrière d'artisans, où les patrons d'ailleurs vont faire la barricade avec les ouvriers, souvent. Et qui est quelque chose de très traditionnel dans le 19e siècle français. Et c'est ça qui se produit, mais ça se produit et ça marche.
Et ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir que Hugo est un révolutionnaire débutant, disons.
Voilà.
Et puis il apprend très très vite. Par exemple, il fait des cours, mais des topos sur ce que c'est qu'une bonne et une mauvaise barricade, très très rapidement, presque le deuxième jour. Et donc on voit que ces barricades sont de plus en plus nombreuses pendant la deuxième, puis la troisième journée. Et la mort de Baudin est une sorte de mort avant que les grands événements...
Sur le faubourg Saint-Antoine, là où ça a échoué.
C'est ça.
Le soulèvement n'a pas fonctionné.
Et donc,
ça clôt cette histoire du faubourg Saint-Antoine.
On avait prévu de lire ce qui se passe à la première barricade de la rue Saint-Martin.
La barricade de la rue Mellet.
Voilà, la barricade de la rue Mellet.
La première barricade de la rue Saint-Martin fut construite à la hauteur de la rue Mellet. On renversa une grande charrette, on la coucha en travers de la rue et l'on dépava la chaussée. Quelques dalles de trottoir même furent arrachées. Cette barricade, tête de défense de toute la rue insurgée, ne pouvait être qu'un obstacle momentané. Nulle part les pavés n'y dépassaient la hauteur d'homme. Sur tout un grand tiers de la barricade, il ne montait pas au-dessus du genou. « Cela sera toujours bon pour s'y faire tuer », disait un gamin qui y roulait force pavés. une centaine de combattants prirent position derrière. Vers 9 heures, les mouvements de troupes annoncèrent l'attaque. Les têtes de colonne de la brigade Marulaz occupèrent l'angle de la rue du côté du boulevard. Une pièce de canon enfilant toute la rue fut mise en batterie devant la porte Saint-Martin. On s'observa quelque temps des deux parts, dans ce silence bourru qui précède le choc. La troupe regardant la barricade hérissée de fusils, la barricade regardant le canon béant. Bientôt, l'ordre de l'attaque générale fut donné. Le feu commença. Le premier boulet passa par-dessus la barricade et frappa en pleine poitrine, à 20 pas en arrière, une femme qui passait. Elle tomba éventrée. Le feu devint vif sans endommager beaucoup la barricade. La pièce était trop près, les boulets portaient trop haut. Les combattants qui n'avaient pas encore perdu un homme recevaient chaque boulet au cri de « Vive la République !» mais sans tirer. Ils avaient peu de cartouches et ils les ménageaient. Tout à coup, le 40e régiment déboucha en colonne serrée. La barricade fit feu. La fumée emplit la rue. Quand elle se dissipa, on vit une dizaine d'hommes sur le pavé et les soldats se repliant en désordre le long des maisons. Le chef de la barricade cria « Ils lâchent pied, arrêtez le feu !» Ne perdons pas une balle.
Oui, peut-être avant d'en venir au massacre, dire un mot de la présence, moi je trouve hallucinant, des noms propres. Et ça fait partie de l'intérêt de votre édition. Vous donnez des notes sur les faits, les gens, etc. Il a une volonté. Il donne des listes d'ailleurs concurrentes, oui. Comme ça, la liste du comité exécutif nommé par Louis Bonaparte.
Et la liste des représentants proscrits.
Et la liste des proscrits, voilà. Il y a une volonté comme ça de donner les noms, de rappeler les faits des héros et des lâches d'ailleurs, mais de d'énumérer beaucoup de noms propres, de gens qui sont morts de façon héroïque sur les barricades.
C'est vrai. Et au fond, c'est utile parce que on a complètement occulté la violence de ce coup d'État et le massacre qui s'en est suivi, la fusillade sur les boulevards. Parce que on assiste depuis maintenant, je dirais, une vingtaine d'années à une réhabilitation rampante de Napoléon III, qu'on nous présente comme un philanthrope saint-simonien pendant le...
L'extinction du paupérisme.
L'extinction du paupérisme. On dit, c'est au fond, la France s'est bien développée pendant le Second Empire. C'est le moment où la révolution industrielle a triomphé et où vraiment la France est devenue un pays moderne. Et c'était un gouvernement éclairé. On voit bien les raisons de cette réhabilitation, du reste.
Le Grand Paris, bel urbanisme, voilà. Les affaires reprennent, tout baigne dans l'huile. Essayons de faire aussi bien, on a entendu ça il n'y a pas si longtemps.
Oui, on voit très bien l'actualité de ça. D'ailleurs, j'ai été, il n'y a pas très longtemps, sidéré de voir que la place, le parvis qui est devant la gare du Nord s'appelle Place Napoléon III. Je ne sais pas qui a pris cette décision, probablement le conseil municipal du 10e.
Alors, je crois que c'était plutôt sous Chirac que ça a été décidé.
C'était sous Chirac.
Mais à cette époque-là, il y avait un mouvement municipal à Paris de réhabilitation. Vous avez tout à fait raison de la période Second Empire.
Ah, Nicolas.
Oui, alors ces listes, bon, d'abord, outre le fait qu'elles forment un effet textuel assez incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de disjonction dans le récit, et puis tout d'un coup, là, on va s'attarder sur une liste, sur une liste de noms avec, qui sont extrêmement longues, et puis c'est aussi un des.
Il y a aussi des listes de députés.
Voilà, c'est aussi un des points forts du livre, c'est son index commenté, qui est vraiment très intéressant parce que c'est presque un dictionnaire biographique du personnel, du Second Grand Empire, de la République. Et puis en même temps, on voit aussi les gens qui n'y sont pas dans ces listes, c'est-à-dire Lamartine, par exemple, qui disparaît complètement, enfin, qui est le grand homme du début de la Deuxième République, de 48, et puis qui disparaît complètement. Donc voilà, on est effacé. Qu'est-ce qu'il est devenu? On sait plus. Et c'est intéressant, justement, de voir aussi, de suivre à la trace ceux qui se sont ralliés, ceux qui sont restés inflexibles dans l'opposition, et ceux pour qui le nom propre est un enjeu extraordinaire. Il y a ce type qui s'appelle Perrier et qui vient rayer son nom parce qu'on l'a mis dans la liste des membres de l'Assemblée consultative qui auraient approuvé le coup d'État.
On comprend, s'il en était pas.
Et alors, il va rayer son nom en écrivant « Je viens reprendre mon nom sur les affiches » parce que c'est cette liste des représentants de l'Assemblée a été placardée pour légitimer le coup d'État en disant, vous voyez, en fin de compte, il y a eu des échauffourées, mais c'est en fin de compte tout à fait légal ce qui se passe. Et lui vient démentir individuellement, tout seul comme ça, d'affiche en affiche, il va rayer son nom, alors que c'est un notable et qu'il n'a aucun intérêt à le faire. Au contraire, qu'il prend beaucoup de risques en faisant ça. Et c'est intéressant justement l'enjeu du nom d'ailleurs qui est permanent dans le livre, puisque Victor Hugo ne se prive pas de citer le nom du père putatif de Napoléon, qui serait un amiral hollandais et non pas un frère de Napoléon Ier. Enfin bon, cet enjeu-là est vraiment permanent. C'est intéressant parce que Victor Hugo est aussi un auteur dramatique, et les personnages vivent par leur nom. C'est lui qui disait dans Nomen il y a Omen, etc. Donc il est sans arrêt obsédé par cette histoire du nom propre.
Oui, c'est
dramatique et puis aussi biblique, hein, c'est la grande tradition
des noms, des généalogies.
Oui, et puis aussi, je veux dire, le droit, la nécessité historique de flétrir le nom des méchants et de faire triompher pour toujours le nom des généreux. C'est un... Alors, il faut dire que l'édition est extraordinairement bien faite parce que elle est dotée d'une... d'une annotation par Guy Rosa, grand hugolien, qui suit le bouquin, tout à fait éclairante. Hein. Donc, malgré cet effet d'opacité du nombre des noms, on traverse l'édition en toute clarté, grâce à ça. Entre la préface de Hovas, qui nous redonne le contexte historique de façon tout à fait claire, et puis les notes de Rosa, on est pris en tenaille par les deux meilleurs hugoliens de ce jour. Donc, que rêver de mieux?
Donc on en vient au massacre de ce troisième jour, et la description de Hugo est absolument extraordinaire. Donc on avait pensé en lire quelques extraits.
Auparavant?
Oui, allez-y, Eric.
Je voudrais ajouter quelque chose concernant les noms. À un moment donné, le policier qui vient chez lui alors qu'il n'y est pas pour l'arrêter, il s'appelle Hiver. Et c'est presque trop beau, quoi. C'est Javert, quoi. C'est Javert. Et c'est pas le seul exemple dans le livre de passerelle entre Histoire d'un crime et Les Misérables. Les gamins, braves comme des lions et agiles comme des chats, dont il parle sur les barricades, c'est Gavroche, évidemment. Hein. Et Cournet, c'est Jean Valjean.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il était déjà en train d'écrire Les Misérables, c'est ça? Mais c'est un effet d'écho très étrange.
C'était La Misère. Et il l'interrompt au moment du coup d'État. Et il le reprend une douzaine, quinzaine d'années plus tard, ça devient Les Misérables, mais évidemment tous ces épisodes-là sont encore présents dans son esprit, il va les utiliser, il va les métaboliser dans Les Misérables. Entre, au fond, Napoléon le Petit, Les Misérables et Histoire d'un crime, au fond, il y a des passerelles.
Et puis Les Châtiments.
Et Les Châtiments,
ouais.
Bien sûr.
À la fin, avec l'enfant mort. Ouais.
Il fait des passerelles entre 1832, 1848, 1851, 1877.
Et 1871.
Et 1871, parce que la Commune.
Quand il publie en 1877, la Commune
est juste derrière.
Est juste derrière. Et il va faire partie des peu de notables, de gens importants qui prennent fait et cause pour l'amnistie des communards.
Le docteur Piquet, homme de 70 ans, fut tué dans son salon d'une balle dans le ventre. Le peintre Jolivard, d'une balle dans le front, devant son chevalet. Sa cervelle éclaboussa son tableau. Le capitaine anglais William Jesse esquiva une balle qui perça le plafond au-dessus de sa tête. Dans la librairie voisine des magasins du prophète, le père, la mère et les deux filles furent sabrés. On fusilla dans sa boutique un autre libraire, le Filleul, boulevard Poissonnière. Rue Lepelletier, Boyer, pharmacien, assis à son comptoir, fut lardé par les lanciers. Un capitaine, tuant tout devant lui, prit d'assaut la maison du grand balcon. Un domestique fut tué dans les magasins de Brandus. Rebel, à travers la mitraille, disait à Saxe « Et moi aussi je fais de la musique ». Le café Leblon fut mis à sac. La maison Bill Coq fut canonnée au point qu'il fallut l'étançonner le lendemain. Devant la maison Jouvin, il y eut un tas de cadavres, dont un vieillard avec son parapluie et un jeune homme avec son lorgnon. L'hôtel de Castille, la maison Dorée, la petite Jeannette, le café de Paris, le café Anglais furent pendant 3 heures les cibles de la canonnade. La maison Racneau s'écroula sous les obus. Les boulets démolirent le bazar Montmartre. Nul n'échappait. Les fusils et les pistolets travaillaient à bout portant. C'était l'approche du jour de l'an. Il y avait des boutiques d'étrennes. Passage du Saumon, un enfant de 13 ans, fuyant devant les feux de peloton, se cacha dans une de ces boutiques, sous un monceau de jouets. Il y fut saisi et tué. Ceux qui le tuèrent élargissaient en riant ses plaies avec leurs sabres. Une femme m'a dit, on entendait dans tout le passage les cris du pauvre petit. 4 hommes furent fusillés devant la même boutique. L'officier leur disait, cela vous apprendra à flâner. 1/5, nommé Maillret, laissé pour mort, fut porté le lendemain avec 11 plaies à la charité. Il y a expiré. Au coin de la rue du Sentier, un officier de Spahi, le sabre levé, criait « Ce n'est pas ça, vous n'y entendez rien, tirez aux femmes !» Une femme fuyait, elle était grosse, elle tombe, on la fait accoucher d'un coup de crosse. Une autre, éperdue, allait disparaître à l'angle d'une rue. Elle portait un enfant. 2 soldats l'ajustèrent. L'un dit « À la femme !» et il abattit la femme. L'enfant roula sur le pavé. L'autre soldat dit « À l'enfant !» et il tua l'enfant. Un homme considérable dans la science, le docteur Germain C., déclare que dans une seule maison, la maison des bains de jouvence, il y avait à 6 heures, sous un hangar dans la cour, environ 80 blessés, presque tous, 70 au moins, vieillards, femmes et enfants. Le docteur C. leur donna les premiers soins. Il y eut rue Mandard, dit un témoin, un chapelet de cadavres qui allait jusqu'à la rue Neuve-Saint-Eustache. Devant la maison Audier, 26 cadavres. 30 devant l'hôtel Montmorency. Devant les variétés, 52, dont 11 femmes. Rue Grange-Batelière, 3 cadavres nus. Le numéro 19 du faubourg Montmartre était plein de morts et de blessés. J'arrivais sur le boulevard. Il était indescriptible. J'ai vu ce crime, cette tuerie, cette tragédie. J'ai vu cette pluie de la mort aveugle, j'ai vu tomber autour de moi, en foule, les massacrés éperdus. C'est pour cela que je signe ce livre, un témoin. La destinée a ses intentions, elle veille mystérieusement sur l'historien futur, elle le laisse se mêler aux exterminations et aux carnages, mais elle ne permet pas qu'il y meure, voulant qu'il les raconte.
Il y a une scène hallucinante, je crois, le 4e jour, ils savent que tout est perdu. Et Hugo se trouve près d'une barricade, on l'emmène. Il y a une palissade de bois qui le sépare de la barricade. Il est dans une sorte de pièce avec 2 mourants. Et il entend les soldats qui arrivent. Les types qui défendent la barricade ont chacun, je crois, 1 cartouche. Et il entend tout. Et puis, il pense qu'il va mourir, là. Oui. Il y a une scène extraordinaire. Et puis, les soldats, finalement, partent. Oui, ouais. C'est ça. Ouais. C'est une scène, je ne sais pas comment il faut dire, romanesque au fond. Il a dit plusieurs fois qu'il voulait écrire à la fois l'histoire et l'écrire comme un roman. Et souvent, dans l'histoire d'un crime, c'est d'autant plus impressionnant qu'on sait que c'est vrai. Et en même temps, c'est formidablement
romanesque. C'est presque cinématographique, cette scène-là.
C'est vrai. Et puis ensuite, la scène de l'enfant mort, qui est extrêmement impressionnante.
Quand on réentend lire tout ce que vous venez de lire, là, ça exclut pratiquement la Saint-Barthélemy effet collatéral. On se rend bien compte que ces gens-là ont eu des ordres. C'est pas possible qu'une troupe se déchaîne à ce point-là si elle n'a pas d'ordre. Mmh. Simplement parce que ça l'amuse. Je pense qu'ils avaient des ordres de faire un massacre. Justement parce qu'il fallait faire peur, parce que finalement, l'affaire ne tournait pas si bien. L'émeute risquait de gagner par contagion. L'émeute qui ces barricades dans le quartier traditionnel des barricades parisiennes risquait de s'étendre. Et ça, c'était évidemment le pire qui puisse arriver à Louis Bonaparte.
En même temps, Hugo ne cesse de dire qu'ils n'ont pas de munitions, qu'ils n'ont pas d'armes, qu'ils sont complètement démunis de tout et qu'ils n'ont pas très
toujours
très
été comme ça. Toutes les insurrections victorieuses à Paris, il y en a quand même eu, Dieu merci, ont été faites avec des barricades faites de briques et de broc et sans cartouches.
Ah, Nicolas.
Oui, on sent aussi d'ailleurs, non pas la revanche, mais l'acharnement à l'encontre des émeutiers de juin 48. On a l'impression que la troupe veut finir le travail, comme on dit aujourd'hui, finish the job, quoi. Et il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, malgré tout, on avait monté une sorte de machine de guerre contre le peuple parisien, puisque 48, ça a été l'ascension de Cavaignac, et l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte a été aussi conçu comme une sorte de réaction modérée pour éviter d'avoir le plus sanglant des généraux et de l'autre côté pour éviter d'avoir ce qu'on appelait à l'époque les démocrates socialistes qui ont représenté à peu près 10%, qui était vraiment l'extrême gauche de l'époque. Et en fin de compte, on se retrouve avec le côté militaire qui a été bien décrit par Victor Hugo, en expliquant comment a été corrompue l'armée, comment elle s'est ralliée à Napoléon. Marx le dit très bien aussi dans les 18 brumaires de Louis-Napoléon Bonaparte, avec le rôle des revues, etc. Et comment finalement on met en place une armée de ce qu'on a appelé les sabres-peuples, quoi.
Jean-Marc Lebesi.
Oui, je crois que c'est une analyse politique juste, mais je crois qu'il y avait aussi la volonté dans cette planification, il y a eu des fusillades quand même, des exterminations à la fusillade, de faire peur, pas seulement au peuple de 48, mais comme on le disait, à celui des artisans, à celui des employés, à celui des petits bourgeois. Parce que là, par rapport à ce coup d'État, à cette mise au pas, enfin, ou en geôle de la nation, les gens qui ont réagi, c'était une nouvelle couche populaire. C'est cette couche qu'on pourra appeler ensuite de moyenne bourgeoisie, qui était en train de se lever. Il fallait en tuer.
Oui.
Et ça a été dit tel quel. Tuez-en, hein, devant Tortoni, tuez du bourgeois, pour qu'il se calme. Et quand Hugo dit... le lendemain, le 5, hein, il va dans un endroit là où on a fusillé, quoi, 150 personnes, 150 prisonniers. Il remue entre les pavés avec la pointe de sa botte, et il remue la boue et il trouve du sang. Et il fait vraiment de cette image une sorte de symbole. Ce mot est toute l'histoire du coup d'État et sera toute l'histoire de Louis Bonaparte. Remuez cette boue, vous trouverez le sang. Il dit quelque chose qui est un fait historique. On a massacré, on a fait verser le sang en très grande quantité à Paris, quoi.
C'est ça, et c'est ça que ce livre a le grand intérêt, qui n'était pas disponible, et peut-être pas pour rien. Je veux dire, si on ne trouvait plus ce livre, je pense qu'il y avait des raisons, je ne dis pas de complot, hein, mais il y avait des raisons que ce livre, qui va tellement à l'encontre de cette réhabilitation de Louis Bonaparte dont on a parlé tout à l'heure, ce livre n'était plus... Et le fait de le republier, je pense que c'est une bonne action, parce que ça remet en cause la véritable nature de ce régime.
Et peut-être aussi donc la véritable nature de toute tentation bonapartiste, populiste, bonapartiste.
On a parlé aujourd'hui de l'histoire d'un crime, déposition d'un témoin de Victor Hugo, préface de Jean-Marc Ovas, notes et notices de Guy Rosa, qui est publié aux éditions La Fabrique. Cet atelier a été réalisé par Anne Franchini, prise de son Éric Boissé, documentation Émilie Hermand, coordination Anne-Vanessa Prévost.
Cette émission a été diffusée la première fois le 13 décembre 2009 sur France Culture.